les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Vendredi appartient corps et âme à l'homme blanc. Comment vendredi pourra-t-il trouver sa liberté et quelle réaction sera celle de Robinson? Vendredi, enfermé dans l'instant présent. Vendredi, le véritable héros du roman de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, qui venait de paraître aux éditions Gallimard. Vendredi, lu par François Chaumette. Voici le 13e rendez-vous d'une série de 16, première diffusion sur France Culture le 30 août 1967.
Écoutons, lu par François Chaumette, la suite des aventures de Robinson Crusoé, extraite du récent roman de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Depuis l'arrivée de Vendredi sur l'île déserte, les tiraillements deviennent de plus en plus graves entre l'anglais méthodique, travailleur et avare, et l'Indien fantasque, désordonné et paresseux. La crise devait forcément éclater. Elle éclate en effet le jour où Vendredi fume la pipe en cachette près de la réserve de poudre de Robinson. Dès lors, l'île va changer de maître.
Où l'on voit que la désobéissance est parfois récompensée.
Vendredi avait découvert le barillet à tabac et il fumait la longue pipe de Van Dysel en cachette de son maître. La punition, s'il était découvert, serait sans doute exemplaire, car la provision de tabac touchait à sa fin et Robinson ne s'accordait plus désormais qu'une pipe tous les deux mois. C'était une fête pour lui à laquelle il songeait longtemps à l'avance et il redoutait le moment où il devrait renoncer définitivement à ce plaisir. Ce jour-là, il était descendu inspecter les lignes de fond qu'il avait posées la veille par marée basse et qui devaient être tout juste découvertes par le jusant. Vendredi mit le barillet à tabac sous son bras et alla s'installer dans la grotte. Tout son plaisir était perdu quand il fumait en plein air. Mais il savait que s'il avait fumé dans l'une des maisons, l'odeur l'aurait immanquablement trahi. Robinson pouvait fumer n'importe où. Pour lui, seul comptait le fourneau brûlant et vivant, grésillant et culotté. C'était l'enveloppe terrestre d'un petit soleil souterrain, une manière de volcan portatif et domestiqué qui rougeoyait paisiblement sous la cendre à l'appel de sa bouche. Dans cette cornue en miniature, le tabac recuit, calciné, sublimé, se transmuait en résine, goudron et sirop bitumeux dont l'âme venait lui piquer agréablement la narine. C'était la chambre nuptiale, possédée, enfermée dans le creux de sa main, de la terre et du soleil. Pour Vendredi, au contraire, toute l'opération ne se justifiait que par la fumée libérée en volute et le moindre vent ou courant d'air rompait le charme irrémédiablement. Il lui fallait une atmosphère absolument calme et rien ne convenait mieux à ses jeux éoliens que l'air dormant de la grotte. À une vingtaine de pas de l'entrée de la grotte, il s'est construit une manière de chaise longue avec des sacs et des tonneaux. À demi renversé en arrière, il tire profondément sur le bec de corne de la pipe. Puis ses lèvres laissent filtrer un filet de fumée qui se divise en deux et se glisse sans aucune perte dans ses narines. La fumée accomplit alors sa fonction majeure. Elle meuble et sensibilise ses poumons. Elle rend conscient et comme lumineux cet espace caché dans sa poitrine et qui est ce qu'il y a en lui de plus aérien et de plus spirituel. Enfin, il expulse doucement le nuage bleu qui l'habitait. À contre-jour, devant l'ouverture éclairée de la grotte, la fumée déploie une pieuvre mouvante, pleine d'arabesques et de lents tourbillons, qui grandit, monte et devient de plus en plus ténue. Vendredi rêve de longues minutes et s'apprête à tirer une nouvelle bouffée de sa pipe quand l'écho lointain de cris et d'aboiements parvient jusqu'à lui. Robinson est revenu plus tôt que prévu et il l'appelle d'une voix qui ne présage rien de bon. Ten jappe, un claquement retentit, la chicote. La voix devient plus proche, plus impérieuse. Dans le cadre clair de l'entrée de la grotte se découpe la silhouette noire de Robinson, poings sur les hanches, jambes écartées, paraffées par la lanière du fouet. Vendredi se lève. que faire de la pipe. Il la jette de toutes ses forces dans le fond de la grotte, puis il marche bravement vers le châtiment. Robinson a dû découvrir la disparition du barillet car il écume de fureur. Il lève la chicotte. C'est alors qu'éclate un tremblement de terre. Un torrent de flammes rouges jaillit de la grotte. Dans une dernière lueur de conscience, Robinson se sent soulevé, emporté. Tandis qu'il voit le chaos rocheux qui surmonte la grotte, culbuté comme un jeu de construction. En ouvrant les yeux, Robinson vit d'abord un visage noir penché sur lui. Vendredi lui soutenait la tête de la main gauche et tentait de lui faire boire de l'eau fraîche dans le creux de sa main droite. Mais comme Robinson serrait convulsivement les dents, l'eau se répandait autour de sa bouche, dans sa barbe et sur sa poitrine. L'arrocan sourit et se releva en le voyant remuer. Aussitôt, une partie de sa chemise et la jambe gauche de son pantalon, déchiquetés et noircis, tombèrent sur le sol. Il éclata de rire et se débarrassa par quelques contorsions du reste de ses vêtements à demi calcinés. Puis, ayant ramassé un fragment de miroir au milieu d'objets domestiques disloqués, il s'y regarda en faisant des grimaces et le présenta à Robinson avec un nouvel éclat de rire. Malgré les traces de suie qui le balafraient, il n'avait aucune blessure au visage. Mais sa belle barbe rousse était rongée de taches de pelade et semée de ces petites croûtes vernies que forme le poil en cramant. Il se leva et arracha à son tour les loques carbonisées qui s'attachaient encore à lui. Il fit quelques pas. Il n'avait que des contusions superficielles sous l'épaisse couche de suie, de poussière et de terre qui le couvrait. La résidence brûlait comme une torche. La muraille crénelée de la forteresse s'était effondrée dans le fossé qui en défendait l'approche. Plus léger, le bâtiment de la pairie, l'oratoire et le mât calendrier avaient été soufflés pêle-mêle. Robinson et Vendredi contemplaient ce spectacle de désolation quand une gerbe de terre monta vers le ciel à 100 pieds de là, suivie une seconde plus tard d'une explosion brisante qui les jeta à nouveau sur le sol. Une grêle de cailloux et de souches déchiquetées crépita autour d'eux. Ce devait être la charge de poudre que Robinson avait enfouie sur la piste menant à la baie et qu'un cordon d'étoupe permettait d'enflammer à distance. Robinson dut se convaincre qu'il ne restait désormais plus un gramme de poudre dans l'île pour avoir le courage de se relever et de poursuivre l'inventaire de la catastrophe. Épouvantées par cette seconde explosion beaucoup plus proche, les chèvres s'étaient ruées toutes ensemble dans la direction opposée et avaient défoncé la clôture du corral. Elles galopaient maintenant en tous sens comme prises de frénésie. Il leur faudrait moins d'une heure pour se disperser dans l'île et moins d'une semaine pour retourner à l'état sauvage. À la place de la grotte, dont l'entrée avait disparu, s'élevait un chaos de blocs gigantesques en forme de tours, de pyramides, de prismes, de cylindres. Cet amoncellement était dominé par un piton rocheux qui s'élevait à la verticale et devait fournir un point de vue incomparable sur l'île et la mer. Ainsi, l'explosion n'avait-elle pas eu qu'un effet destructeur ? Et il semblait qu'à l'endroit où la déflagration avait été la plus violente, un génie architectonique en eût profité pour donner libre cours à une verve baroque. Robinson regardait autour de lui d'un air hébété. Et machinalement, il se mit à ramasser les objets que la grotte avait vomis avant de se refermer. Il y avait des hardes déchirées, un mousquet au canon tordu, des fragments de poterie, des sacs troués, des couffins crevés. Il examinait chacune de ces épaves et allait la placer délicatement au pied du cèdre géant. Vendredi l'imitait plus qu'il ne l'aidait, car répugnant naturellement à réparer et à conserver, il achevait généralement de détruire les objets endommagés. Robinson n'avait pas la force de s'en irriter, et il ne broncha même pas lorsqu'il le vit disperser à pleine poignée un peu de blé qu'il avait trouvé au fond d'une urne. Le soir tombait, et il venait enfin de trouver un objet intact, la longue-vue, lorsqu'ils découvrirent le cadavre de Ten au pied d'un arbre. Vendredi le palpa longuement. Il n'avait rien de brisé, il n'avait même rien du tout apparemment. Mais il était indiscutablement mort. Pauvre Ten, si vieux, si fidèle. L'explosion l'avait peut-être fait mourir tout simplement de peur. Ils se promirent de l'enterrer dès le lendemain. Le vent se leva, ils allèrent ensemble se laver dans la mer, puis ils dînèrent d'un ananas sauvage. Et Robinson se souvint que c'était la première nourriture qu'il eut prise dans l'île le lendemain de son naufrage. Ne sachant où dormir, ils s'étendirent tous deux sous le grand cèdre parmi leurs reliques. Le ciel était clair, mais une forte brise nord-ouest tourmentait la cime des arbres. Pourtant, les lourdes branches du cèdre ne participaient pas aux palabres de la forêt, et Robinson, étendu sur le dos, voyait leur silhouette immobile et dentelée se découper à l'encre de Chine au milieu des étoiles. Ainsi, vendredi avait eu raison finalement d'un état de choses qu'il détestait de toutes ses forces. Certes, il n'avait pas provoqué volontairement la catastrophe. Robinson savait depuis longtemps combien cette notion de volonté s'appliquait mal à la conduite de son compagnon. Moins qu'une volonté libre et lucide, prenant ses décisions de propos délibérés, vendredi était une nature dont découlaient des actes, et les conséquences de ceux-ci lui ressemblaient comme des enfants ressemblent à leur mère. Rien, apparemment, n'avait pu jusqu'ici influencer le cours de cette génération spontanée. Sur ce point particulièrement profond, il se rendait compte que son influence sur Larocan avait été nulle. Vendredi avait imperturbablement et inconsciemment préparé puis provoqué le cataclysme qui préluderait à l'avènement d'une ère nouvelle. Quant à savoir ce que serait cette ère nouvelle, c'était sans doute dans la nature même de Vendredi qu'il fallait chercher à en lire l'annonce. Robinson était encore trop prisonnier du vieil homme pour pouvoir prévoir quoi que ce fût. Car ce qui les opposait l'un à l'autre dépassait et englobait en même temps l'antagonisme souvent décrit entre l'anglais méthodique, avare et mélancolique et le natif prime sautier, prodigue et rieur. Vendredi répugnait par nature à cet ordre terrestre que Robinson, en paysan et en administrateur, avait instauré sur l'île et auquel il avait dû de survivre. Il semblait que Larocan appartint à un autre règne, en opposition avec le règne tellurique de son maître, sur lequel il avait des effets dévastateurs, pour peu qu'on tentât de l'y emprisonner. L'explosion n'avait pas tout à fait tué le vieil homme en Robinson, car l'idée l'effleura qu'il pouvait encore assommer son compagnon endormi à côté de lui. Il avait mille fois mérité la mort. Et entreprendre de retisser patiemment la toile de son univers dévasté. Or, la peur de se retrouver seul à nouveau et l'horreur que lui inspirait cette violence n'étaient pas seuls à le retenir. Le cataclysme qui venait d'avoir lieu, il y aspirait secrètement. En vérité, l'île administrée lui pesait à la fin presque autant qu'à vendredi. Vendredi, après l'avoir libéré malgré lui de ses racines terrestres, allait l'entraîner vers autre chose. À ce règne tellurique qui lui était odieux, il allait substituer un ordre qui lui était propre et que Robinson brûlait de découvrir. Un nouveau Robinson se débattait dans sa vieille peau et acceptait à l'avance de laisser crouler l'île administrée pour s'enfoncer à la suite d'un initiateur irresponsable dans une voie inconnue. Il en était là de ses méditations lorsqu'il sentit quelque chose remuer sous sa main posée à plat sur le sol. Il pensa à un insecte et palpa l'humus du bout des doigts. Mais non, c'était la terre elle-même qui se soulevait en cet endroit. Un mulot ou une taupe allait émerger au bout de sa galerie. Robinson sourit dans la nuit en imaginant l'effarement de la bestiole qui allait se jeter dans une prison de chair en croyant aboutir à l'air libre. La terre remua d'or chef et quelque chose en sortit, quelque chose de dur et de froid qui demeurait fortement ancré dans le sol, une racine. Ainsi donc, pour couronner cette journée effrayante, les racines prenaient vie et saillaient d'elles-mêmes hors de terre. Robinson, résigné à toutes les merveilles, fixait toujours les étoiles à travers les branches de l'arbre. C'est alors qu'il vit, sans erreur possible, toute une constellation glisser d'un coup vers la droite, disparaître derrière un rameau et reparaître de l'autre côté. Puis elle s'immobilisa. Quelques secondes plus tard, un long et déchirant craquement fendit l'air. Vendredi était déjà sur ses pieds et aidait Robinson à se lever à son tour. Ils s'enfuirent à toutes jambes au moment où le sol basculait sous eux. Le grand cèdre glissait lentement parmi les étoiles et s'abattait avec un grondement de tonnerre au milieu des autres arbres, comme un géant qui tombe dans les herbes hautes. La souche, dressée verticalement, tenait embrassée toute une colline de terre dans ses bras crochus et innombrables. Un silence formidable succéda à ce cataclysme. Miné par l'explosion, le génie tutélaire de Speranza n'avait pas résisté au souffle vigoureux, bien que sans rafale, qui animait les frondaisons. Après la destruction de la grotte, ce nouveau coup à la terre de Speranza achevait de rompre les derniers liens qui attachaient Robinson à son ancien fondement. Il flottait désormais, libre et apeuré, seul avec Vendredi. Il ne devait plus lâcher cette main brune qui avait saisi la sienne pour le sauver, au moment où l'arbre sombrait dans la nuit. La liberté de Vendredi, à laquelle Robinson commença à s'initier les jours suivants, n'était pas que la négation de l'ordre effacé de la surface de l'île par l'explosion. Robinson savait trop bien, par le souvenir de ses premiers temps à Speranza, ce qu'était une vie désemparée, errant à la dérive, et soumise à toutes les impulsions du caprice et à toutes les retombées du découragement, pour ne pas pressentir une unité cachée, un principe implicite dans la conduite de son compagnon. Vendredi ne travaillait à proprement parler jamais. Ignorant toute notion de passé et de futur, il vivait enfermé dans l'instant présent. Il passait des jours entiers dans un hamac de lianes tressées qu'il avait tendu entre deux poivriers, et du fond duquel il abattait parfois à la sarbacane les oiseaux qui venaient se poser sur les branches, trompés par son immobilité. Le soir, il jetait le produit de cette chasse nonchalante aux pieds de Robinson, qui ne se demandait plus si ce geste était celui du chien fidèle qui rapporte, ou au contraire celui d'un maître si impérieux qu'il ne daigne même plus exprimer ses ordres. En vérité, il avait dépassé dans ses relations avec Vendredi le stade de ses mesquines alternatives. Il l'observait, passionnément attentif à la fois aux faits et gestes de son compagnon et à leur retentissement en lui-même, où il suscitait une métamorphose bouleversante. Son aspect extérieur en avait subi la première atteinte. Il avait renoncé à se raser le crâne et ses cheveux se tordaient en boucles fauves de jour en jour plus exubérantes. En revanche, il avait coupé sa barbe déjà saccagée par l'explosion, et il se passait chaque matin sur les joues la lame de son couteau, longuement affûtée sur une pierre volcanique, légère et poreuse, assez commune dans l'île. Du même coup, il avait perdu son aspect solennel et patriarcal, ce côté Dieu le Père qui appuyait si bien son ancienne autorité. Il avait ainsi rajeuni d'une génération, et un coup d'œil au miroir lui révéla même qu'il existait désormais, par un phénomène de mimétisme bien explicable, une ressemblance évidente entre son visage et celui de son compagnon. Des années durant, il avait été à la fois le maître et le père de Vendredi. En quelques jours, il était devenu son frère. Et il n'était pas sûr que ce fût son frère aîné. Son corps s'était lui aussi transformé. Il avait toujours craint les brûlures du soleil, comme l'un des pires dangers qui menacent un Anglais, roux de surcroît, en zone tropicale, et il se couvrait soigneusement toutes les parties du corps avant de s'exposer à ses rayons, sans oublier, par précaution supplémentaire, son grand parasol de peau de chèvre. Ses séjours au fond de la grotte, puis son intimité avec la terre, avaient achevé de donner à sa chair la blancheur laiteuse et fragile des raves et des tubercules. Encouragé par Vendredi, il s'exposait nu désormais au soleil. D'abord apeuré, recroquevillé et laid, il s'était épanoui peu à peu. Sa peau avait pris un ton cuivré. Une fierté nouvelle gonflait sa poitrine et ses muscles. De son corps rayonnait une chaleur à laquelle il lui semblait que son âme puisait une assurance qu'elle n'avait jamais connue. Il découvrait ainsi qu'un corps accepté, voulu, vaguement désiré aussi par une manière de narcissisme naissant, peut-être non seulement un meilleur instrument d'insertion dans la trame des choses extérieures, mais aussi un compagnon fidèle et fort. Il partageait avec Vendredi des jeux et des exercices qu'il aurait jugés autrefois incompatibles avec sa dignité. C'est ainsi qu'il n'eut de cesse qu'il ne sache marcher sur les mains, aussi bien que la Rocan. Il n'éprouva d'abord aucune difficulté à faire les pieds au mur contre un rocher en surplomb. Il était plus délicat de se détacher de ce point d'appui et de progresser sans basculer en arrière et s'éreinter. Ses bras tremblaient sous le poids écrasant de tout le reste du corps, mais ce n'était pas faute de force, c'était plutôt l'assise et aussi la prise adéquate de ce fardeau insolite qui restait à acquérir. Il s'acharnait, considérant comme un progrès décisif dans la voie nouvelle où il avançait la conquête d'une sorte de polyvalence de ses membres. Il rêvait de la métamorphose de son corps en une main géante dont les cinq doigts seraient tête, bras et jambes. La jambe devait pouvoir se dresser comme un index. Les bras devaient marcher comme des jambes, le corps reposant indifféremment sur tel membre, puis sur tel autre, telle une main s'appuyant sur chacun de ses doigts. Parmi ses rares occupations, Vendredi confectionnait des arcs et des flèches avec un soin minutieux, d'autant plus remarquable qu'il s'en servait peu pour la chasse. Après avoir taillé des arcs simples dans les bois les plus souples et les plus réguliers, santal, amarante ou copaïba, il en vint rapidement à ligaturer sur une âme de buis des lamelles de cornes de bouc qui en multipliaient la vigueur. Mais c'était aux flèches qu'il accordait la plus grande application. Car s'il accroissait sans cesse la puissance des arcs, c'était pour pouvoir augmenter la longueur des flèches qui dépassa bientôt 6 pieds. L'équilibre délicat de la pointe et de l'empennage n'était jamais assez exact à son gré. Et on le voyait, durant des heures, faire osciller le fût sur l'arête d'une pierre pour en situer le centre de gravité. En vérité, il empennait ses flèches au-delà de toute limite raisonnable, usant à cette fin tantôt de plumes de papegaie, tantôt de feuilles de palmier, et comme il découpait les pointes en forme d'ailettes dans des omoplates de chèvre, il était évident qu'il s'agissait pour lui d'obtenir de ses traits, non qu'ils atteignissent une proie avec force et précision, mais qu'ils volent, qu'ils planent aussi loin, aussi longtemps que possible. Lorsqu'il bandait son arc, son visage se fermait sous un effort de concentration presque douloureux. Il recherchait longuement l'inclinaison de la flèche qui lui assurerait la trajectoire la plus glorieuse. Enfin, la corde sifflait et venait riper sur la manchette de cuir dont il se protégeait l'avant-bras gauche. Tout le corps penché en avant, les deux bras tendus dans un geste d'essor et d'imploration à la fois, il accompagnait la course du trait. Son visage brillait de plaisir, aussi longtemps que la force vive l'emportait sur le frottement de l'air et la pesanteur. Mais quelque chose semblait se briser en lui lorsque la pointe basculait vers le sol, à peine freinée dans sa chute par l'empennage. Robinson se demanda longtemps quelle pouvait être la signification de ces tirs à l'arc sans gibier, sans cible, où Vendredi se dépensait jusqu'à épuisement. Il crut le comprendre enfin un jour qu'un assez fort vent marin faisait moutonner les vagues qui déferlaient sur la plage. Vendredi essayait des flèches nouvelles, d'une longueur démesurée, empennées sur près de 3 pieds par une fine barbe prélevée sur des rémiges d'albatros. Il banda en inclinant la flèche à 45 degrés en direction de la forêt. La flèche monta jusqu'à une hauteur de 150 pieds au moins. Là, elle parut marquer un instant d'hésitation. Mais au lieu de piquer vers la plage, elle s'inclina à l'horizontale et fila vers la forêt avec une énergie nouvelle. Lorsqu'elle eut disparu derrière le rideau des premiers arbres, Vendredi se tourna radieux vers Robinson. Elle va tomber dans les branches, tu ne la retrouveras pas, lui dit Robinson. Je ne la retrouverai pas, dit Vendredi. Mais c'est parce que celle-là ne retombera jamais.
Vendredi ou les limbes du Pacifique. Les extraits de ce roman de Michel Tournier étaient lus par François Chaumette. Réalisation Jean-Pierre Collat.
Cette lecture, la 13e d'une série de 16, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 août 1967. À suivre, et d'ici là à télécharger, ainsi que les épisodes précédents, sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Le roman de Michel Tournier est publié aux éditions Gallimard.